Voici À tout Tarn, magazine en partenariat avec le Conseil départemental.
Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutos et à toutes. Bienvenue dans votre magazine À tout Tarn sur Radio LBGS. Aujourd'hui, on vous propose une visite guidée radiophonique d'un lieu magique, Castel Rock, le château de la Roque, une ruine de plus de 1000 ans perdue puis retrouvée par Laurent Barès. Il se trouve, en cherchant bien, au sud-est d'Albi, à moins de 2 km des cascades d'Arifat. Ce lieu est en cours de préservation, ici on ne parle pas de rénovation, complète ou partielle, car ce qui se dégage de ces ruines se suffit à lui-même, et l'association tient à préserver cette atmosphère. Castel Rock accueille également de nombreux stages de construction et de rénovation pendant l'été, nous y reviendrons en détail au cours de ce magazine. Ce château est aussi idéal pour l'organisation de fêtes ou de festivals, comme par exemple ce dimanche 16 juin. On vous propose de revivre le Tarn du XIIe siècle le temps d'une journée avec de nombreuses animations et ateliers pour tous les âges. Allez, c'est parti, on vous emmène à la découverte de Castel Rock comme si vous y étiez. On est donc en compagnie de Laurent Barès, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Alors donc vous êtes le propriétaire de ce lieu magnifique, Castel Rock, sur les hauteurs de Saint-Antonin-de-la-Calme, c'est le village le plus proche. Et donc vous êtes propriétaire des lieux, vous êtes également trésorier de l'association Castel Rock en Arifades, c'est le nom de l'association qui gère un peu ce lieu et qui organise tout ce qu'il y a à faire sur ce lieu, vous nous expliquerez tout après. Et peut-être pour commencer, là on est à l'entrée et on va un petit peu déambuler dans les lieux pendant que vous m'expliquez tout ça, mais pour commencer, c'est quoi votre... comment vous êtes tombé sur ce lieu et c'est quoi un peu l'histoire derrière, et puis expliquez-moi tout quoi.
Alors moi je suis originaire d'Albi, j'ai vécu quasiment toute ma vie là-bas, et puis il y a de ça 5 ans maintenant, avec mon épouse Béatrice, on a décidé de sortir de la ville pour se mettre un petit peu dans un environnement paisible et de campagne, mais à la fois pas trop loin ni d'Albi ni de Castres. Et donc nous avons acheté une maison au bord de la rivière, du Dadou.
Juste en dessous là, celle-là ?
Wow. Voilà. Et puis il se trouve que sur les terrains qui entouraient la maison, il y avait la ruine d'un château médiéval qui avait été oublié depuis plusieurs siècles. Les gens des environs en avaient un petit peu connaissance, mais c'est un lieu qui était visité par les anciens quand ils étaient jeunes, mais qui était vraiment tombé dans l'oubli.
Et vous le saviez quand vous aviez acheté la maison qu'il y avait cet endroit, ou vous l'avez découvert par hasard ?
Non, on savait, bien sûr. Vous savez, quand on passe un acte de propriété, tout est quand même un petit peu décrit dessus. Mais c'était pas notre première idée, évidemment, c'était pas d'acquérir la ruine d'un château, mais voilà, l'opportunité était là, donc on l'a saisie. Et quand avec Béatrice nous sommes venus passer à travers les fourrés, les ronces, découvrir cet endroit, on y a senti immédiatement des ondes assez incroyables, et on s'est dit c'est vraiment dommage que ce lieu, ce vestige d'un patrimoine tarné tombe complètement dans l'oubli. Et voilà, alors c'est très ambitieux, à la fois c'est trop complexe pour gérer ça de manière personnelle, et donc nous avons décidé de monter une association en fait, pour voir si des personnes seraient intéressées pour se joindre à nous dans cette quête un peu fantastique et incroyable.
Bah oui, c'est sûr, c'est une sacrée histoire, très originale. Et du coup, c'est quoi l'histoire de l'association ? Du coup, cette association, c'est Castel Rock en Arifades. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà un petit peu le nom, pourquoi vous l'avez appelé comme ça, et qu'est-ce que vous souhaitez faire à travers cet asso ?
Alors effectivement, le nom d'origine du château, c'est le château de la Roque. Il est situé en face des cascades d'Arifat. Nous l'avons renommé pour l'appeler désormais Castel Rock. Ça lui donnait un côté un petit peu plus épique dans sa terminologie. Et on a monté l'association quasiment un an après être arrivé ici. Et en faisant connaissance un petit peu avec les gens du village, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Tessier, qu'on appelle désormais Pierre de Bretagne, parce qu'il est breton, et tailleur de pierre, et de métier. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on fait quand même un petit peu la paire tous les deux. Et on s'est lancé dans cette aventure en y associant d'autres personnes. Et aujourd'hui, l'association compte environ une soixantaine d'adhérents et un bon nombre de bénévoles parmi eux qui sont venus nous aider pour commencer à travailler à la préservation du site. Hein, on est bien entendu très très loin d'une notion de reconstruction. On est avant tout là pour préserver le site, même en l'état de ruine tel qu'il est, parce que la ruine en elle-même est déjà très charmante et donc amène un petit peu un côté onirique et laisse rêveur.
Oui. C'est ça, ça prête à la rêverie. Si on reconstruisait tout, on ne pourrait pas s'imaginer chacun qu'est-ce que ça pouvait être avant. Et du coup, c'est un château. Peut-être, est-ce que vous voulez qu'on parle de l'origine du lieu, de l'histoire, j'imagine. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ce château.
Alors, ce château, voilà, c'est comme beaucoup de châteaux, en fait. Hein, il a vécu pendant plusieurs siècles. Alors, on estime que le premier élément majeur de la c'est la tour qui a été construite et qui serait du XIe siècle, c'est-à-dire autour de l'an 1000. Le reste du castellat, qui est perché à plus de 75 mètres de haut, en aplomb de la rivière du Dadou, sur un promontoire rocheux assez impressionnant. Le reste du castellat, lui, est construit au XIIe, XIIIe siècle. Et puis, au fur et à mesure des siècles, il va subir, en fonction de l'utilisation, différentes modifications, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle à peu près, où il finira par s'effondrer complètement. Et puis, c'est certainement des structures d'habitation qui ensuite sont trop onéreuses pour qu'elles puissent être entretenues. Et du coup, les gens qui l'habitaient quittent et puis ils tombent dans l'oubli.
Et est-ce que vous avez retrouvé des traces dans les écrits, les archives peut-être?
Alors on a fait des recherches, il y avait déjà des personnes qui avaient quand même fait des recherches aussi dans le département et même un petit peu au-delà. On s'est renseigné auprès de l'Université du Mirail, hein, où ils ont des historiens et des archéologues qui travaillent sur ces sujets-là. On a réussi à écrire un livre voilà, qui est à la vente et qui retrace tout ce que l'on sait aujourd'hui de l'histoire de ce château.
Okay. Et comment on fait pour se le procurer, ce livre, du coup?
On contacte l'association, voilà, on a un site internet, hein, castelroc.net. Donc derrière, il y a un petit formulaire de contact, il suffit de nous contacter et voilà, tout simplement.
Okay. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un petit tour, là, une petite visite des lieux radiophoniques, en essayant d'expliquer au maximum tout ce qu'on voit autour?
Avec plaisir.
Allons-y. Et c'est parti, merci beaucoup, on est donc devant l'entrée. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous décrire un petit peu cette entrée là, très imposante, et vous avez voulu respecter vraiment l'univers du lieu, quoi.
Voilà, ouais. Donc ça c'est une palissade. Alors c'est une palissade en bois. Hein, on sait que les tours médiévales, avant d'être construites en pierre, étaient construites en bois. Donc nous, avec un groupe de bénévoles, puisqu'on accueille des jeunes qui viennent de toute la France, hein, durant tout l'été, hein, c'est pas loin de entre 150 et 200 jeunes qui se succèdent tout au long de l'été depuis plus de 3 ans. Donc du coup, voilà, ça crée une main-d'œuvre qui est assez enthousiaste quand il s'agit de construire et de travailler dans un château. Et puis, bien, on y associe aussi toutes les techniques de construction que l'on connaît bien désormais pour alimenter un petit peu le lieu. Alors cette palissade en bois, elle a deux fonctions. D'abord, elle a une fonction effectivement un petit peu de décoration, hein, du lieu, mais aussi une fonction qui veut signaler qu'il y a ici un lieu dans lequel on ne peut pas rentrer si on n'est pas accompagné. C'est très important parce que le site n'est pas sécurisé complètement, parce que des pierres peuvent tomber, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le site est lui-même placé sur un environnement rocheux qui est extrêmement dangereux. Donc voilà, par mesure de précaution, on signale à l'entrée comment est-ce qu'on peut contacter l'association, qu'est-ce que fait l'association pour venir le visiter. Et nous, on se rend quand même globalement très disponible pour permettre aux gens de venir le visiter. Notre objectif avec l'association, c'est de sécuriser le site, préserver le lieu et ensuite de pouvoir l'ouvrir au public pour que justement le public puisse... dans le cadre d'une promenade ou d'une visite, puisse librement pénétrer et faire sa propre visite.
Bon, et bien c'est parti, hein.
Voilà, donc quand on arrive, la première chose qu'on voit évidemment c'est la tour, élément majeur du castellat, et vous pouvez constater sur votre droite tout le paysage sur le versant où en fait on est venu enlever bon nombre de broussailles qu'il pouvait y avoir pour redégager un petit peu la vue de façon à pouvoir profiter un petit peu mieux des lieux. Et sur cet environnement-là, on a une convention de partenariat avec le lycée agricole de Font-Labour pour accueillir des élèves tout au long de l'année. Donc ils sont venus cette année, ils ont énormément travaillé. Et en fait, c'est vraiment... on est très enthousiaste et eux aussi sur cette collaboration parce que pour eux, ça leur donne un lieu où ils peuvent venir mettre en pratique ce qu'ils apprennent à l'école, aussi bien en termes d'irrigation que de construction, de murs en pierre sèche, de construction en bois, de végétalisation, de réflexion globale sur l'aménagement paysager d'un site. Et on a travaillé sur l'histoire avec eux, on a défini comment est-ce qu'on allait réorganiser un parcours à l'intérieur de ce jardin qu'on est en train de reconstituer, pour permettre aux visiteurs d'y retrouver toutes les plantes à l'époque moyenâgeuse, on allait cueillir dans la forêt. On cultivait peu quand même à l'époque, mais il y a quand même certaines plantes qu'on cultivait, de façon à pouvoir resituer et remettre le visiteur dans un contexte qui soit le plus proche possible de l'environnement médiéval.
Ah mais c'est génial parce que du coup c'est un travail en lien, du coup vous m'avez dit tout à l'heure on travaillait avec le MIRAI, donc les étudiants en histoire, et c'est vraiment fait. Un projet global.
On travaille aussi bien avec des jeunes qui travaillent pour un CAP, pour un BEP, qui préparent un bac professionnel ou même qui sont en BTS, aménagement paysager, donc c'est vraiment tous les niveaux. On accueille également des classes beaucoup plus jeunes, des collèges, voire même des primaires, pour leur faire visiter, pour leur faire faire des ateliers. On a créé toutes sortes d'ateliers thématiques suivant les âges, bien sûr, qui soient adaptés, aussi bien pour apprendre à construire, tailler la pierre, travailler la terre même, pour du modelage ou des choses comme ça. Et ça a un succès assez sympa. Ouais.
Ah, j'imagine qu'aux étudiants, si on leur dit vous avez possibilité de venir faire des jardins ici, ça doit les faire un peu rêver, quoi. Ça, c'est de la vraie pratique, c'est loin de ce qu'ils doivent voir en cours.
Tout à fait, mais en plus, ce qui est très intéressant dans un lieu comme celui-là, c'est que, par exemple, au mois de septembre, on a des jeunes qui vont venir en bivouac pendant plusieurs jours avec leurs enseignants, et on peut aussi travailler l'art, on peut travailler les mathématiques, on peut travailler quasiment toutes les matières que l'on peut voir, aussi bien la biologie, l'écologie. Ils viennent avec leur professeur d'art plastique, et vous avez pu voir à l'entrée peut-être, il y a certains personnages un peu mystérieux qui sont dissimulés à droite à gauche. Ils ont été faits dans le cadre d'une animation de Land Art et avec l'enseignant en art pour les aménagements.
Voilà. Alors vous voyez, j'ai même pas fait assez attention, j'ai pas vu les personnages, j'ai vu un dragon au pied du château, mais il était assez en évidence.
Oui, c'est ce qui fait aussi le charme du lieu, c'est qu'en fait il y a énormément d'indices et de choses à observer. Donc même si on vient une première fois, on peut venir une deuxième, une troisième, une quatrième, en fait on se rend compte qu'on découvre tous les jours quelque chose de nouveau. Même nous qui y sommes quand même de manière très régulière, on se rend compte qu'on découvre des choses quasiment tous les jours.
Et du coup, là, alors cette entrée-là, on avance donc sur le terrain vers l'imposante tour du château. Et tout ce qui a été fait en pierre, là, comme les jardins en terrasse, les blocs à côté, tout ça, ça a été fait au cours d'atelier avec les élèves. Les barrières en bois aussi.
Exactement. Voilà. Tout ça, ça n'existait pas ou plus. En fait, toutes ces pierres que l'on voit ici, ça fait quand même commence à faire de nombreux murs. Et vous pouvez constater sur les hauteurs, on a commencé à faire d'autres cheminements. Cet été, on va travailler sur ces cheminements pour continuer à construire des murs en pierre sèche pour construire les terrasses qui permettent de tenir la terre sur laquelle on fait des plantations. Et en fait, toutes ces pierres sont des pierres qui sont extraites de l'intérieur du château, puisque le château s'est écroulé. Et plutôt que de construire des tas de pierres qui prendraient... Il y a des tonnes et des tonnes de pierres ici. Et on sait très bien que ça prendra des dizaines et des dizaines d'années avant de pouvoir éventuellement les réutiliser dans une éventuelle reconstruction. Du coup, on s'est dit, plutôt que de faire un stockage de pierres sans intérêt, autant les stocker dans un endroit où elles auront une fonction intermédiaire, on va dire.
Et en plus, du coup, vous respectez aussi certaines techniques. Là, par exemple, c'est des murs sans ciment, donc
exactement.
C'est en pierre sèche.
Tout ça, c'est en pierre sèche, donc il n'y a aucun mortier à l'intérieur. Ça peut nous arriver d'utiliser le mortier. Par exemple, là, quand on s'approche de la tour, on voit que certains murs pour la sécurisation ont été ce qu'on appelle cristallisés, hein, c'est-à-dire c'est un mortier fait de chaux, de sable, de gravier et d'eau, bien entendu, pour venir faire une couverture par-dessus qui permet de tenir les pierres, qui évite le ruissellement de l'eau à l'intérieur des murs, qui empêche la végétation de repousser de manière trop importante. Et du coup, ça permet de restabiliser des murs, même s'ils sont que partiels. Hein, dans leur, voilà. Parce que si vous voyez l'entrée de la tour, elle se situe au premier étage là-haut. Donc
ah oui,
c'est par là qu'on rentrait à l'intérieur de la tour. La tour est assez jolie, on espère pouvoir l'ouvrir à la visite. Elle est jolie, il n'y a rien à l'intérieur si ce n'est deux grandes voûtes en pierre. Les planchers en bois ont disparu, voilà, c'est vide, il n'y a pas de, oui. Il n'y a absolument rien dedans. Mais voilà, elle est parfaitement bien conservée. Ouais. Hein, vous voyez que les arêtes sur les côtés sont parfaitement alignées, les verticales et les horizontales sont encore parfaites. On voit que c'est une construction d'une très très grande qualité. Bien plus importante que les autres murs du reste du château qui arrivent que 100 ans ou 200 ans plus tard. On voit que les murs sont nettement plus grossiers dans leur construction, alors que les tailles, et c'est pour ça d'ailleurs que cette tour, 1000 ans plus tard, elle est toujours debout et il en manque quasiment rien. Hein. En haut, il y a un petit peu de végétation qu'on laisse là pour le coup volontairement parce qu'elle boit l'eau en attendant. Ah, oui. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il y ait des arbres qui poussent. Ceux-là, on les coupe.
Ah, oui, les
racines, mais tout ce qui est un petit peu des petites plantes comme les ronces, etc., ça permet de maintenir quand même éviter que l'eau se pénètre trop profondément dans la tour. Au contraire, elle est absorbée par les plantes qui en font leur affaire.
Ouais. Tout s'équilibre.
Voilà.
Et du coup, c'était quoi la technique qu'ils ont utilisée, eux, pour construire la tour à l'époque? Là, on voit qu'il y a un mortier un peu quand même entre les pierres. C'est
tout
pas
à fait,
que du mur sèche.
Absolument. Oui. Même sur le reste du castellat, mais sauf que le mortier étant de moins bonne qualité, on voit que le mortier sur la tour est excellent parce qu'il est encore présent. C'est-à-dire, ouais. Malgré l'assaut du temps, hein, la pluie qui tombe dessus, ça ravine, etc., ça gratte la pierre, eh bien, le mortier a tenu pendant plus de 1000 ans. Et cette qualité de mortier, elle est principalement due à la qualité de la chaux qui a été utilisée à l'époque. Voilà. Et la chaux, ben, à l'époque, ça vaut très cher. Donc, quand on veut construire, il faut acheter de la chaux, et pour ça, il faut avoir de l'argent, et donc, en fonction de ses moyens, on va plus ou moins, hein, on peut même finir par mettre de la terre à l'intérieur de... Pour servir de mortier, mais forcément ça résiste moins au temps.
Hein. Donc du coup on peut se dire que c'est une famille ou en tout cas des gens un peu aisés quand même qui ont fait cette construction.
Voilà, oui, il y a une seigneurie, hein, une seigneurie de la Roque. Alors après les seigneuries ça tourne beaucoup, hein, parce que avec les mariages, un coup c'est la Roque d'Arifat, un coup c'est la Roque. Et puis bon, on sait qu'à cette époque-là, il y a la famille des Trencavel qui a quand même une emprise sur ce territoire de l'Occitanie de manière assez importante. Et on est clairement dans ces lieux-là.
Et c'était un château destiné... est-ce que vous savez si autour, il y avait aussi des paysans qui vivaient, alors, il y avait tout un système féodal comme à l'époque?
C'est une bonne question. Effectivement, alors il y a plusieurs temps. Hein. Au départ, on pense que c'est une garnison. Alors peut-être 5, 6, 10 soldats qui sont là en garnison pour surveiller finalement la rivière qui sert de frontière, surveiller les abords d'un territoire. Après, les siècles qui arrivent, effectivement, il va y avoir une habitation à l'intérieur, le château va s'agrandir, il y aura un seigneur à l'intérieur, jusqu'au moment où il partira, parce que protestant, il partira jusqu'en Hollande, pour se mettre à l'abri, et du coup il abandonnera et voilà.
Okay. Ouais. Est-ce que du coup vous êtes officiellement le seigneur de la Roque puisque vous êtes propriétaire des lieux?
Non, j'ai pas de titre, donc je suis simplement propriétaire, ça suffit largement. Et puis surtout la notion de propriété pour moi elle est un lieu comme ça est plutôt la propriété de tous, quoi. Voilà, simplement je suis peut-être un peu le garant du fait qu'on va essayer de le préserver et d'essayer de le faire découvrir au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on accueille des jeunes, on essaie de les sensibiliser un petit peu au patrimoine, à la restauration, à tous ces métiers manuels qui tombent un petit peu dans l'oubli et qui sont assez passionnants finalement. Hein.
Ouais. Mais du coup, dans le département, on est plutôt bien équipé à ce niveau-là. Rien que du côté de Cordes, forcément, je vais prendre l'exemple qui parle au plus de monde, mais c'est là aussi où du coup, il y a des métiers anciens qui continuent et qui travaillent.
Ah oui, il y a tout un artisanat, effectivement, hein, autour, autour de Cordes, mais dans le Tarn, avec le château de Pennes également, avec le château de Rochefort, avec le château de Montfat, avec le château de la Bastide Vassal. Voilà, tous ces petits lieux sont plus ou moins grands d'ailleurs, sont généralement repris par des gens qui sont passionnés et qui se dévouent pour contribuer un petit peu à la préservation de tout ça.
Bon ben, on continue. Alors il y a un escalier, j'imagine que celui-là il date pas de l'époque.
Voilà, non, il date pas de l'époque. On l'a mis là parce que ça nous permet quand même d'accéder sur la partie haute. Voilà, il faut vous dire que là où nous sommes, c'est-à-dire dans la cour basse, hein, la basse cour du château, cette espèce de grand fossé a été creusé par l'homme. Donc le roc avant rejoignait le pied de la tour. Ça a été creusé pour créer une zone défensive pour un éventuel assaillant qui arrive par le haut de la colline, alors que de l'autre côté, les trois faces sont sur le vide. Donc c'est la seule face finalement qu'il fallait protéger, et c'est comme ça qu'ils ont creusé ce fossé de ce côté.
Voilà. Comme c'est un peu les douves du château.
C'est ça, c'est un peu comme une douve.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Albigès dans votre magazine À tout Tarn, aujourd'hui consacré à Castelroc, le château de la Roque. Alors là, du coup, on est à l'endroit où ici c'était habité, c'était construit. Au-dessus de nous, il y avait. Voilà. Là, on est dans ce qu'était le château avant, quoi.
Voilà, là, on arrive dans la cour dite haute. Et de part et d'autre de nous, sur notre droite et sur notre gauche, il y avait effectivement des bâtiments qui partaient jusqu'à la pointe rocheuse. Voilà, donc il y avait des bâtiments à droite, des bâtiments à gauche, et là on était au milieu. Alors nous, on a commencé à travailler à l'épierrement, hein, c'est-à-dire on enlève les pierres pour regagner des élévations, des hauteurs, mais avant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est venu cristalliser le haut des murs, voilà, un petit peu partout, pour maintenir, avant de descendre finalement sur les étages inférieurs. Par contre, tous ces travaux, d'abord nous, on demande conseil au bâtiment de France, hein, à l'UDAP, et puis au service régional d'archéologie de la DRAC,
pour nous accompagner. L'UDAP, c'est quoi
L'UDAP, c'est en fait les bâtiments de France.
D'accord. Hein,
même si le site n'est pas classé monument historique, pour nous, c'est important d'avoir leur conseil. Donc régulièrement, tous les ans à peu près, on fait une visite avec eux, on leur montre un petit peu ce qu'on a fait, on prend conseil, ils nous disent plutôt comme ci, plutôt comme ça. Par exemple, le mortier qu'on a utilisé, c'est eux qui nous ont fait leurs recommandations en nous disant, voilà, il faut du sable de rivière, etc., plutôt roux. Okay. Hein, voilà. Donc, on ne fait pas un mortier comme ça, on ne met pas du ciment, on utilise de la chaux, etc. Donc, on essaie quand même d'être respectueux des techniques. Et l'association est également adhérente du Conseil départemental d'archéologie du Tarn. Ça, c'est un choix qu'on a fait quasiment immédiatement après la création de la société, parce que on savait que dans un bâtiment de patrimoine comme ça, l'archéologie avait un rôle majeur et qu'il est extrêmement important, dès que l'on commence à fouiller un petit peu, hein, à creuser finalement, bah, d'être très vigilant et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que le moindre indice est ce qui nous permet en fait de comprendre quelle vie il y a eu. Et il n'y a pas que la vie au Moyen-Âge qui nous intéresse. Quand on a un château comme ça, il est important de savoir aussi qu'est-ce qui se passait au XVIIe siècle, si s'y passait quelque chose. Je veux dire, on a même retrouvé des choses beaucoup plus récentes, comme par exemple des balles à blanc, parce qu'à un moment donné, l'armée venait s'entraîner ici. Ouais. Les soldats ont fait eux-mêmes leur propre cabane en pierre à l'intérieur. Donc il faut aussi comprendre que certains murs, en fait, n'ont rien à voir avec du médiéval. C'est des choses beaucoup plus récentes, des élévations beaucoup plus récentes pour des protections. Donc, vous voyez, pour vous dire que finalement, le sol sur lequel on est en train de piétiner, eh bien, on est en 2019, mais 10 cm plus bas ou 20 cm, on est peut-être au début du siècle précédent, et etc. Donc ça, c'est très important. Donc l'adhésion pour nous et notre participation, hein, puisqu'on est au conseil d'administration du conseil départemental d'archéologie, voilà, nous permet aussi de nous enrichir de personnes qui... voilà, comme Jacques Mathieu qui en est le président et qui nous suit aussi depuis longtemps et qui est même à l'initiative aussi de la création de cette association. Hein. C'est lui qui est venu me trouver au départ en me disant « Laurent, tu comprends ce château, il faudrait faire quelque chose. Ouais. » Voilà, donc tout ça c'est important.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être des fouilles? Est-ce que ce serait prévu ça de faire des
fouilles
avec...
hein. Donc quand on fait une fouille, en fait on demande une autorisation de fouille. Pour ça, on a un archéologue professionnel qui nous suit. Donc, on a, entre guillemets, embauché un cabinet d'archéologie professionnelle pour nous suivre et nous accompagner. D'abord, pour faire les sondages archéologiques, on demande l'autorisation au service régional d'archéologie, ce qui nous permet ensuite de faire un sondage Et sur la base de ce sondage et des résultats qui en sortent, l'archéologue fait un rapport. Et derrière, on a la possibilité, ou pas, de continuer à notre travail de déblaiement, finalement.
Hein. Ce que vous appelez sondage, c'est sonder le sol.
Un sondage, c'est en gros, c'est un mètre cube, un cube de 1 mètre sur 1 mètre, qu'on creuse avec l'archéologue qui est présent. Comme ça, il a son œil très averti et immédiatement, il peut repérer quelque chose pour éviter qu'on fasse une bêtise et qu'on détruise l'histoire. Et du coup, sur la base de ce sondage et des résultats, il sait dire si, oui, on est dans un endroit où il faut faire des fouilles très minutieuses, ou simplement, non, on est sur une zone complètement déboulie. Finalement, dans de l'éboulie, on ne trouvera rien. Hein? Ouais. Voilà.
Ah, ça doit être hyper excitant pour les archéologues de ce moment-là.
Oui, tout à fait, oui. Mais tout à fait, oui. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, vous voyez ici, là, par exemple. Voilà. Ça fait l'objet d'un sondage. On a retrouvé ce qu'on appelle une calade. Voilà. Donc là, maintenant, l'archéologue a fait tous les relevés. Il a fait toutes les photos. Hein, sur chaque photo, elles sont tout est numérisé en fait. Hein, on a pris des notes sur tout, ce qui nous permet après de venir poursuivre nos travaux à l'intérieur. Mais vous voyez, rien que cette calade, elle est assez. On voit que tous ces galets, en fait, ils viennent de la rivière. Hein.
D'accord. Donc, que là, on est pour expliquer un peu, on est au pied de la tour, et donc c'est ce qui servait de sol
sur la porte d'entrée du château. Donc ça veut dire qu'on est. Cette calade a été construite sur de l'éboulis.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il y a eu de la vie au-dessus de l'éboulis.
Ok.
Ouais, quand je vous dis que au fur et à mesure des siècles, finalement, ben, la vie continue et les lieux sont systématiquement réutilisés.
D'accord. Et donc vous savez que ces cailloux viennent de la rivière le Dadou qui est juste en bas.
Ce sont des galets roulés, okay. Hein, ce qu'on appelle des galets roulés. Donc on voit bien que ce sont des pierres en fait qui ont été transportées par l'eau et elles ont été usées et arrondies par l'eau. Et donc ils sont allés chercher des galets à la rivière, donc bien plus bas là-bas, ils ont tout monté ici pour se faire une petite terrasse qui était certainement en fait une terrasse sur laquelle il y avait des animaux tout simplement.
Ouais.
C'était peut-être une bergerie.
Et là la roche a été taillée en
Il y a plein d'endroits ici où la roche a été taillée. Vous me parliez tout à l'heure d'habitat autour du château. Il y a eu on a retrouvé des traces sur tous les rochers. Alors on n'a pas fait plus de recherches que ça encore sur le sujet, mais on a retrouvé des traces en fait d'habitat semi-troglodyte, ce qu'on appelle des cases en coche ici. On en trouve d'ailleurs beaucoup au niveau d'Ambialé. Si vous allez vous promener autour d'Ambialé,
je connais bien.
si vous regardez bien, il y a des endroits, ce qu'on appelle les cases en coche, ce sont les anciens habitats semi-troglodytes.
Est-ce que c'est celui qu'on voit un peu à l'entrée là sur le chemin?
Non, ça c'est une carrière.
Ah, d'accord.
C'est l'ancienne carrière, anciennes carrières. Mais ça a servi d'habitat également après. On a retrouvé aussi des encoches à l'intérieur. Donc au départ c'est une carrière, mais ensuite toujours pareil, c'est toujours le même principe. Les lieux sont systématiquement réutilisés. Et voilà. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on a dénommé environ 30-40 lieux d'encoches où il y avait des habitats. Donc on sait qu'il y avait potentiellement 30-40 familles peut-être qui habitaient autour du château.
D'accord.
Voilà. Et sur les parois rocheuses, hein, c'est assez. En fait, les gens ici vivaient c'était des paysans pour la plupart, mais la vallée du Dadou a la particularité d'être très riche en minerais. Donc depuis l'époque romaine, puisqu'on a retrouvé aussi des mines romaines, gallo-romaines, depuis l'époque romaine, en fait, le lieu est un lieu d'attractivité parce qu'il a une vraie valeur, une vraie richesse à venir extraire les minerais qui sont dans cette vallée. Ce qui peut être, du coup, quand il y a des richesses, forcément, ça peut faire
des
convoitises. Voilà.
Et oui. Mais en plus, c'est un lieu très agréable à vivre. Et puis, le climat fait qu'on peut y vivre toute l'année avec les récoltes, le bétail.
Voilà.
À l'époque, j'imagine que c'était très important aussi.
Et du coup, comme ce sont des mineurs, pour certains, tailler la pierre, creuser dans le roc pour construire finalement un habitat semi-troglodyte, c'est pas très compliqué pour eux. C'est leur savoir-faire.
Parabole de Guillaume Desque sur Radio Albigès. Vous êtes toujours dans votre magazine consacré à Castelroc, le château de la Roque, une ruine qui date de plus de 1000 ans au sud-est d'Albi. Et on continue la visite avec Laurent Barès, propriétaire des lieux et membre de l'association Castelroc en Arifades.
Donc on est toujours ici au Castelroc avec Laurent Barès de l'association Castelroc en Arifades qui gère ce lieu qui date du Moyen-Âge et qui est en cours de préservation, voilà, voilà. Pour utiliser l'expression.
Donc là on s'est avancé, vous voyez, sur le promontoire rocheux, wow. Donc on n'est pas tout à fait au bout parce qu'il ne faut pas aller au bout, c'est trop dangereux. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a quand même, on a coupé beaucoup de souches. Il y a beaucoup de... on peut trébucher en fait, hein. Et trébucher ici, ça...
On est à pic là, hein.
Voilà, on est à pic là, donc il faut faire très attention. Là, on est à la limite finalement des deux angles extrêmes du château, hein, sur sa face sud-sud-ouest. Wow. Et là, on voit bien qu'en fait, on voit quatre vallées, deux sur la droite et deux sur la gauche. Et en fait, d'ici, alors déjà au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'arbres ici, hein, il n'y avait pas des forêts, hein, faut savoir que c'était des prairies principalement. Donc, ça, qui dégageait quand même considérablement la vue. La rivière était en bas, le moulin était en bas, et le gué était de l'autre côté ici. Donc, en fait, d'ici, on verrouillait l'accès des quatre vallées, et on pouvait immédiatement voir qui arrivait, et donc faire payer éventuellement des droits de passage ou se protéger. Et puis, le château, le fait qu'il soit comme ça sur son éperon rocheux, était visible de loin, et un château, il faut qu'il se voit pour faire peur.
Ouais.
Voilà. Déjà, quand on voit oula, on se dit bon. On va peut-être pas...
Oui. Hein, ouais, un côté un peu dissuasif pour ceux qui voudraient s'y aventurer.
Voilà, quoi. Voilà.
Okay. Wow, c'est magnifique. Et en plus, dis donc, il y a quelques petites habitations en bas, là.
Voilà, il y a quelques...
Ils ont de la chance, hein. Là, on est bien, là. Et du coup, cette forêt n'existait pas du tout,
Non,
était...
tout ça, ce sont des arbres qui datent tout juste du siècle dernier, même pas. Hein. Donc, c'est... Oui, les anciens ici nous disaient que dans la vallée, même quand je dis les anciens, ce sont des gens qui ont entre 60 et 80 ans. Mmh. Mais c'est pas très très vieux, j'en suis presque.
Et, c'est des jeunes anciens.
Voilà. Mais voilà, ils nous racontent qu'avant, quand ils venaient pêcher ici, il y avait des prairies partout.
Ouais. Donc, c'est très beau avec la forêt aussi.
Voilà,
quand même,
tout à fait. Non, si vous voulez, on va se rapprocher maintenant des bénévoles qui sont en train de travailler.
Et la massette, elle est par terre.
On est d'aplomb là pour toi?
Pas du tout. Ni un poteau ni là. Ah, mais maintenant on va les caler.
On n'est pas loin, mais.
On va les caler d'aplomb avec les perches, une par une.
Donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, on a des bénévoles qui viennent régulièrement. Être bénévole, c'est pas très compliqué. Hein. Si jamais ça intéresse certains de vos auditeurs, ils peuvent prendre contact avec nous.
Alors dites-nous tout, comment on fait du coup
Tout simplement, il faut être adhérent. Quand on paye son adhésion, on paye une petite assurance aussi pour, voilà, comme dans tous les sports finalement, ou toutes les associations. Et puis ensuite, on peut venir participer à un chantier. On a un chantier tous les mois, tous les troisièmes dimanches de chaque mois. Les bénévoles se réunissent, c'est toujours super sympa. Voilà, il y a toujours un pique-nique entre milliers et deux, on partage tout ça. Et puis on travaille sur différents chantiers en fonction un petit peu des préférences des uns et des autres. Ça peut être sur de l'aménagement paysager, ça peut être de la construction en bois. Vous voyez, là, on est en train de construire la forge. Hein, oui. Donc, c'est la forge permanente du château parce que il faut qu'on soit un petit peu outillé quelque part pour poursuivre certaines... Par exemple, on a une citerne, il faut qu'on la protège en termes d'accès pour pas que quelqu'un puisse tomber à l'intérieur parce que c'est profond, il y a de l'eau et il faut faire attention. Ben, du coup, on va faire une petite grille en fer forgé. Et on va la faire avec des stagiaires cet été dans la forge.
Ah ouais.
Donc on va en fait nous-mêmes construire un petit peu de ferronnerie d'art. On démonte des granges qu'on nous donne, par exemple, pour récupérer des vieilles poutres. Tout ce qu'on construit, on le fait vraiment le plus possible avec des méthodes anciennes. Et on récupère des matériaux anciens qu'on nous cède pour pouvoir bâtir tout ça.
Ouais. Et la forge, du coup, est-ce que vous êtes en lien avec des forgerons déjà en activité, du coup, sur le territoire? Il y en a pas mal.
Tout à fait. Qui viendra animer cet été le stage de forge qui sera sur la dernière semaine de juillet. Il reste encore quelques places. On ne prend pas beaucoup de monde, mais il doit rester une ou deux places. En fait, on a un forgeron professionnel qui vient et qui va travailler avec ses stagiaires à la confection de certains objets. Donc c'est l'occasion d'apprendre à forger, de découvrir un petit peu ce métier qui est un métier assez passionnant.
Et en plus, on a la chance d'avoir l'usine du Sceau du Tarn qui produit l'acier juste à côté. Donc,
c'est clair.
Voilà. C'est quand même. J'étais allé rendre visite à Jérôme Couette, je crois,
Jérôme qui est
coutelier à Albi. Qui fait des très beaux couteaux, justement, avec l'acier qui est produit à Saint-Juéry. Et là, c'est difficile de faire plus local.
C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et puis on est donc également membre de l'Union Rempart. Donc l'Union Rempart est une association qui compte 80 associations, un petit peu comme la nôtre, qui travaillent sur le patrimoine, en fait, pour la préservation et la restauration du patrimoine. On était avec Pierre Tessier, donc notre président, en congrès avec eux. Il y a un congrès annuel, c'était à Vichy cette année, là, le week-end dernier. Voilà, ça se passe vraiment, c'est assez extraordinaire. Alors c'est vrai que Notre-Dame de Paris a remis le peuple français, peut-être, avec une, je sais pas comment dire, mais voilà,
s'intéresser peut-être un peu plus au patrimoine.
S'intéresser, puis un sentiment, voilà, on se rend compte que quand on risque de perdre un patrimoine important comme celui-là, eh bien, ça nous fait quelque chose, quoi. Ça perturbe jusque dans les pays étrangers, parce que quand même le patrimoine en France est fait, voilà, on a de belles choses, donc c'est intéressant de les préserver et de pouvoir les montrer.
Et surtout, on a un pays qui a une histoire très ancienne, alors c'est du coup, il y a des trésors vraiment que, par exemple, l'Amérique n'aura jamais, quoi. Même s'ils ont aussi une histoire très ancienne, voilà. Mais malheureusement, on a déjà tout détruit en arrivant là-bas. Du coup, là, on entend des bruits qui sont pas très
De temps en temps, on troque la tronçonneuse contre la scie.
Eh oui.
Voilà, parce que, il faut aussi que nos bénévoles ne s'épuisent pas non plus dans des tâches qui sont très ingrates. Mmh. Et quand il faut aller couper un arbre de manière importante et ensuite le débiter en bûche pour qu'on puisse s'en servir ensuite dans notre four pour préparer des gaufres pour nos visiteurs, il faut que ça aille un peu plus vite.
Oui, sinon ça risque de vite devenir très rébarbatif, quoi, voilà. J'imagine.
Ouais. Alors après, nos techniques de restauration sont quasiment issues. Mais après, il faut se dire aussi que un mortier, même si on le fait avec les recommandations des bâtiments de France en utilisant les mêmes types de matériaux, ne restera qu'un mortier de 2019.
Oui.
On ne va jamais refaire un mortier. Il sera proche, il sera identique, mais ça reste un produit fait de nos jours.
Mais parce qu'il y en a qui sont très extrêmes, qui disent par exemple que les échafaudages, il faut qu'ils soient construits à base de bois, avec des cordages, qu'il ne faut pas utiliser autre force que la force humaine ou la poulie.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est sûr que c'est complexe.
Tout à l'heure, on était en train de soulever avec une poulie à la main, et puis quand on a une poutre de 300 kg à bout de bras à tenir, faut quand même garder raison et mettre en place les sécurités qui s'imposent.
Oui, c'est ça.
Voilà, y a des choses qu'on peut pas, sur lesquelles on peut pas plaisanter.
Puis vous étiez à pic là quand même, donc la chute elle fait mal.
Il y avait la pic, donc faire attention. Non, mais bien sûr que c'est honorable de faire les choses. Mais je crois que c'est plutôt une question de passion. Quoi.
Oui.
Vous êtes toujours sur Radio Albigès dans votre magazine, aujourd'hui consacré à Castelroc, le château de la Roque, une ruine datant du Moyen-Âge qui se trouve au sud-est d'Albi, sur les hauteurs de Saint-Antonin-de-la-Calme, à quelques kilomètres de la cascade d'Arifat.
Vous voyez par exemple, là, j'en profite, puis j'avais encore redescendre pour vous montrer ces
jardinières en terrasse.
Voilà, ces petites terrasses. On a planté de la vigne.
Ah ouais, super.
Et pour peut-être faire un jour notre vin. En attendant, il y en aura encore pour quelques années, d'ici que les cèpes aient bien poussé, mais les cèpes de vigne sont du loin de l'œil et du brocol, c'est-à-dire les cépages du Gaillacois. Voilà, on a fait le choix. Le greffon est sur adapté évidemment à notre terrain. Mais voilà, l'idée c'est de conserver, d'être toujours quand même autour de notre territoire, du Tarn et de l'Occitanie. Quoi.
En plus, ils sont très bons, hein. Il y en a qui font du très bon 100% brocol là dans le coin. Et du coup, je me demandais, Castelroc, est-ce que c'est un lien aussi peut-être avec l'occitan? Parce que c'est un nom à consonance occitane quand même aussi.
Après, château de la Roque et Castelroc, ça veut dire la même chose en fait. Hein.
C'est la traduction presque en occitan.
Tout à fait.
Ok.
Ouais.
Parce que c'est. Alors, petite parenthèse, mais c'est aussi. Vous connaissez peut-être la série Game of Thrones.
Oui, je crois que j'ai regardé ça, effectivement.
D'accord. Parce que vous savez que c'est le nom de la capitale. Dans le monde.
Castelroc.
Castelroc.
C'est Castelroc.
Il n'y avait pas de lien
Non, il n'y avait pas de lien. Voilà, mais nous aussi, on a notre dragon, vous voyez, il est...
Eh oui.
Hein, il est...
Il fait moins peur quand même, celui-là.
Il fait moins peur, ouais.
Il a l'air plus sage.
C'est un gentil dragon. Voilà. Et donc, il est là, vous voyez, il est en trois morceaux, en fait.
Ouais.
Et donc, il y a la queue qui est derrière, qui rentre à l'intérieur du rocher, qui ressort par la tour, qui re-rentre dans le rocher, et sa tête ressort ici.
Ah ouais. Voilà. Ah, moi, je trouve ça génial. C'est vrai que... Ça, c'est très lié aussi, ben, je vous parlais de Game of Thrones, mais c'est vrai que depuis... Moi, je suis en plein dans cette génération-là, mais depuis Le Seigneur des Anneaux, je pense que les films sont sortis, notamment, il y a eu toute une... Enfin, le côté médiéval fantastique est revenu complètement au goût du jour, quoi.
Et du j'avais lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais jeune. J'ai attendu avec impatience pratiquement 30 ans en me disant, mais qui c'est qui va réussir à nous faire un film sur Le Seigneur des Anneaux? Et voilà, ouais, c'est arrivé, il a plutôt bien réussi. Ouais. Et c'est vrai que voilà, Le Seigneur des Anneaux est... Un coup de boost sur le côté médiéval. Maintenant, voilà, nous, moi j'aime, hein, puisque j'ai joué au jeu de rôle, enfin voilà, donc Donjons et Dragons.
Ben là, ça doit être génial, les parties.
Je connais ça par cœur, les grandeurs nature, etc. Mais nous, ici, quand même, on s'attache à essayer d'y mettre une touche un petit peu d'heroic fantasy, mais aussi de rester. Et d'ailleurs, la fête médiévale qu'on organise le week-end prochain, qui s'appelle Castel et Dragon, est une fête, la fête médiévale dont vous êtes le héros. Pourquoi dont vous êtes le héros? Parce qu'en fait, on va vous faire faire, pour les visiteurs, vraiment des animations, des ateliers. Voilà, l'idée, c'est que les personnes arrivent déguisées si elles le peuvent. C'est encore mieux, parce que comme ça, il y a une immersion la plus totale. Mais voilà, il y a des artisans, il y a des paysans. On revient dans un terroir du 11e, 13e siècle à peu près, et on essaie de s'immerger à l'intérieur dans cet environnement qui est extrêmement paisible de la vallée du Haut-Dadou.
Ah bah là, c'est le lieu parfait, le lieu rêvé pour faire ça, quoi. Bah peut-être on y reviendra en détail après, sur tout ce que vous, toutes les animations que vous proposez, autant ça que les stages du coup de tout l'été. On va voir les bénévoles qui sont en train de travailler.
Voilà, donc là,
ah ça y est, il n'y a plus l'échafaudage.
On est en train de construire à l'aide d'une vieille charpente en chêne la forge médiévale qu'on va reconstituer ici. Et dans cet emplacement ici, on mettra notre espace qui servira à terme pour tout le travail du bois, hein, menuiserie, ébénisterie, et qui nous servira également d'accueil pour les jeunes pour pouvoir se mettre à l'abri. Voilà, et cette petite maisonnette qui est ici, en bois, est une construction qu'on a construite également avec les bénévoles. Et qui sert d'abri pour les bénévoles quand ils viennent travailler l'hiver, parce que quand il neige, ils sont là, quand il pleut, ils sont là, quand il fait 40 degrés, ils sont là, et donc ils sont plutôt formidables. On les appelle les accros du château.
Et le four aussi, c'est vous qui l'avez construit, j'imagine?
Ouais, le four aussi, ouais.
Okay.
Voilà, ça nous permet de faire nos grillades, de faire des petites choses comme ça.
Et du coup, il y a constamment du monde qui vient travailler sur le château?
Pas tous les jours, mais on a en semaine ou en week-end des journées sur lequel on décide de venir travailler et on se réunit, voilà.
Okay. Ça tient ça? Et bien pour le moment, on se trompe.
Comme on disait.
C'est un enjeu, c'est pour cet été, il faut qu'on soit prêt. Puisque ça sera la forge. On est en train de construire la forge permanente.
Et tu veux pas mettre les perches d'abord?
Attends, si. Mais je le fais.
On est toujours ici au Castel Rock, sur pas loin des cascades d'Arifat, et on continue la visite et puis l'explication de tout ce qu'il y a à savoir sur ce lieu en compagnie de Pierre Tessier. Bonjour.
Bonjour.
Alors toi, on m'a dit que tu étais président de l'association Castel Rock en Arifades, donc qui gère un peu ce lieu. Tu es aussi tailleur de pierre de métier. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des stages que vous organisez avec l'association dont vous faites partie?
Ouais, alors chaque année on organise avec l'association Rempart, à laquelle on est affilié, 5 stages, 2 stages de 15 jours autour de l'aménagement paysager, initiation à la taille de pierre, et un stage d'une semaine autour de la forge et technique de la forge, qui seront animés par un professionnel.
Et donc ça se passe quand? Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut participer?
Alors ça se passe sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site de Rempart, ou de prendre contact avec nous sur le site internet de Castel Rock.
Okay. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est des stages payants? Il faut payer une participation? Comment ça se passe le logement? Parce que sur place, ça doit être particulier.
Alors pour cette année, exceptionnellement, Le logement n'est pas pris en charge par notre association, mais il existe plein de logements autour de nous qui permettent de loger. On amènera, on pourra conseiller les gens. Après, au niveau des frais de participation, ça nous permet de couvrir l'assurance, qui est très importante, l'adhésion à l'association et les repas du midi.
Okay.
Voilà. Et toutes les informations, les coûts étant différents entre chaque formation, chaque stage, sont disponibles sur le site de Rempart.
Et c'est ouvert vraiment à tout le monde? Parce que j'avais vu que c'était plutôt peut-être à destination des jeunes, mais est-ce qu'il n'y a pas d'âge si on est intéressé?
Quand on aime le patrimoine, il n'y a pas d'âge. La seule difficulté, c'est pour les mineurs qu'on accepte, mais accompagnés d'une personne majeure.
Oui, ouais, quand même. Bah, ça reste un lieu, même si c'est magnifique, c'est vrai que bon... faut faire attention, quoi. On est quand même à pic, il y a des pierres un peu partout. Voilà.
Oui, et puis en termes de sécurité, parce qu'on porte des pierres toute la journée. Là, vous voyez, en train de monter une charpente en bois, les conditions de sécurité sont quand même un peu délicates. Voilà, donc on peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier, du coup le rapport particulier que toi avec que t'as avec ce lieu, quoi.
Oui, bah, moi je suis tailleur de pierres. J'ai commencé à 15 ans et demi. J'ai eu la chance de pouvoir aller dans plusieurs endroits en France pour pouvoir apprendre mon métier. Le patrimoine est quelque chose et l'histoire qui m'ont toujours passionné depuis tout petit. C'est pour ça que naturellement je m'étais destiné vers ce métier. Après, en arrivant dans le Tarn, je n'ai pas forcément trouvé de choses intéressantes avec la pierre. Puisqu'ici on est plutôt près du Cidobre, on travaille beaucoup plus le granit et les pierres tombales et autres, donc j'étais pas forcément intéressé.
Ça se taille pas à la main, ça.
et puis depuis 3 ans, avec l'association, je me suis remis dans mon cœur de métier. Okay. Et puis maintenant on fait des stages, on fait l'initiation, voilà. J'espère de plus en plus.
Et ça te permet d'en vivre du coup grâce à cette association?
Non, malheureusement, un peu comme toute association, bah pour le moment c'est surtout beaucoup de bénévolat. Oui. Après, on espère que dans le futur, nous allons pouvoir ouvrir au public. Ouvrir au public le site pendant au moins toute la saison estivale. Et puis essayer petit à petit de pouvoir dégager des salaires à des personnes sur l'association.
Oui. Et du coup, est-ce que toi, tu as déjà exercé ton métier là sur place, vraiment aller tailler les pierres comme ils l'ont fait ici, j'imagine, quand on voit les énormes pans rocheux qui manquent
Ouais, aujourd'hui, on est beaucoup plus, on n'est pas encore sur de la taille pure, on est plus sur de la maçonnerie ancienne, la maçonnerie de réhabilitation. C'est-à-dire que par exemple, tous les hauts de murs prennent l'eau en s'effondrant, donc on a fait une cristallisation, c'est-à-dire un blocage à la chaux des parties de hauts de murs. Avec une purge des pierres qui n'étaient plus saines, afin de pouvoir protéger tout ça.
Et alors toi, du coup, ton regard sur le travail des anciens, puisque ceux qui ont construit ce château, on le disait avec ton collègue tout à l'heure, justement, il est magnifique, c'est super droit encore, tout est en état alors que ça a peut-être plus de 1000 ans. Et est-ce que tu te rends compte qu'il y avait quand même des capacités qui étaient vraiment propres à cette époque-là, des savoir-faire
Est-ce qu'il y avait une capacité ou un savoir-faire propre? Je pourrais pas le dire, puisque enfin, je ne peux pas le juger. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettaient les moyens sur les éléments importants. Puisque justement, comme on le disait justement, la tour de défense étant l'élément principal du château, on peut se rendre compte dans la construction, dans le type de mortier et tout ça, qu'ils ont vraiment mis les moyens pour que cette tour de défense reste essentielle. Alors qu'à l'autre bout du château, dans la partie qui est au-dessus du vide à 75 mètres, on va être sur des murs beaucoup plus fins, bâtis à la terre, des choses beaucoup plus fragiles.
On sait, est-ce qu'elle a subi des assauts ou pas, cette tour?
Alors, pour le moment, sur les recherches historiques qui ont pu être faites au niveau des archives et autres, il y a une fois où le château est pris. Après, est-ce qu'il a été pris par une attaque ou par une reddition ou quelque chose comme ça? Là, on n'en a aucune idée.
Okay. Aujourd'hui. Bon, mais tout ça, ce sera avec les archéologues, peut-être du conseil départemental d'archéologie, qui nous aideront à y voir plus clair sur l'histoire du château.
Oui, exactement. C'est une partie essentielle, puisque refaire un château, c'est bien, ou travailler dessus, mais il est important de comprendre l'histoire, du site, de comprendre l'histoire autour du site, puisque nous, tout autour, on sait qu'il y a un village qui est même plus ancien que le château. Il y avait une voie gallo-romaine. Donc, en fait, on parle d'un ensemble. Plus que vraiment, il y a le château en lui-même, le château est la partie la plus visible. Mais qu'est-ce qui se passait ici il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans? Voilà, tout ça c'est très intéressant et justement, il n'y a que l'archéologie qui peut amener à découvrir toute cette partie.
Eh bien, on attend d'en savoir plus alors. Ça doit être super intriguant en tout cas. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu, là il y a un événement qui arrive très très bientôt ce week-end, ce dimanche 16 juin, c'est ça?
C'est ça. Donc ce dimanche 16 juin à partir de 10h va se passer la fête médiévale Castel et Dragon, qui est une fête médiévale qu'on a voulu un peu originale, puisque le but c'est d'être immergé dans la fête dès le début. Donc un exemple comme un autre, on a frappé monnaie. Nous avons une monnaie de Castel Rock qui vous sera proposée à l'entrée du site. Et une fois sur site, on ne paiera plus qu'avec cette monnaie-là. Et tout au long de la journée, il y aura plein d'ateliers, puisque nous avons axé sur ce qui pouvait être la vie autour du château en période de paix, en période de tranquillité. Donc avec tout un ensemble de métiers représentés, ainsi naturellement que des chevaliers, des combats.
Et vous avez été en contact avec des assos qui proposent ça ?
Tout à fait, on a une compagnie médiévale qui vient pour animer toute la journée, plus des bénévoles de l'association qui animeront aussi. Et puis après, et bien pour tous les gens qui viendraient costumés, ou les gens qui font moins d'un mètre de haut, l'entrée est gratuite.
Ah, c'est bien, ça force les gens à venir et à se prêter vraiment au jeu pour s'immerger, quoi.
C'est ça, c'est exactement le but, c'est la fête dont vous êtes le héros.
Et du coup, ça va être quoi un petit peu les animations? Donc tu nous as dit des tournois, on va voir un peu l'artisanat, est-ce qu'il y aura d'autres choses proposées au public?
Il va y avoir donc de l'artisanat, il y aura un petit peu de combats médiévaux, il y aura des contes en occitan, des danses, il y aura un atelier de piégeage. Comment est-ce qu'on partait braconner dans la forêt pour repérer les pistes, poser des pièges, des choses comme ça. Il y aura une espèce de petit endroit vie paysanne avec quelques animaux, des cochons, des chèvres, des poules, voilà, pour vraiment être immergé d'un bout à l'autre sur le site.
Et donc du coup, puisque vous êtes une association, vous êtes ouvert à toutes les personnes qui voudraient bien la rejoindre, j'imagine. Et quel profil vous recherchez, si vous recherchez des profils, ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde?
Alors, nous, depuis le début, pour nous, l'intérêt est que chacun puisse trouver une place dans l'association autour de l'histoire et autour du patrimoine. Y a des gens qui nous soutiennent juste financièrement. Il y a des personnes qui viennent pour aller aux archives départementales. Il y a des gens qui viennent prendre de la photo. Il y a des gens qui viennent juste nous amener le pique-nique à midi. Tout est ouvert. L'intérêt de cette association, est au-delà de restaurer ce patrimoine, c'est de créer du lien social entre les gens. Donc on met vraiment l'accent à ça.
Et du coup, vous avez réussi à bien vous intégrer dans le territoire, tous les gens qu'il y a autour, parce qu'on est quand même un peu paumé, il faut le dire. Moi, j'aime bien ce mot, moi je m'en fous. Mais et est-ce que les gens autour ont saisi cette opportunité justement pour se regrouper, quoi, autour de quelque chose?
Oui, mais on a pas mal de gens quand même du village ou des villages aux alentours qui viennent nous aider. Puis aujourd'hui, on est quand même une soixantaine de bénévoles actifs. Qui viennent donc de beaucoup du territoire, un peu jusqu'à Albi, un peu à Castres, mais après l'essentiel est quand même ici.
Ben merci beaucoup Pierre Tessier. Donc je rappelle, vous êtes président de l'association Castel Rock en Arifades, qui s'occupe à la préservation de ce lieu magnifique, et le Castel Rock, le château de la Roque, ici dans la vallée du Tescou. Merci beaucoup.
Merci.
C'est la fin de ce magazine sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Alors, petite erreur, hein, pour finir, on n'est pas dans la vallée du Tescou, c'est bien la vallée du Dadou, à quelques kilomètres de la cascade d'Arifat. Si vous voulez toutes les informations sur le site, vous pouvez taper castelrock.net pour accéder donc au site internet. Vous pourrez ainsi voir tous les événements proposés par l'association Castel Rock en Arifades. Et ça commence ce dimanche 16 juin à partir de 10h, donc pour la fête médiévale dont vous êtes le héros. Merci à Pierre Tessier et Laurent Barès pour l'accueil sur le site du Château de la Roque. Si vous avez manqué le début de ce magazine, vous pouvez le réécouter en passant par notre site internet radioalbiges.com à l'onglet podcast. Très belle journée et al cop québé.